Il raconte la confession sur son lit de mort d'Ulrich, comte de Ferrette, qui avoue, mais vraiment in extremis devant un bon moine, que c'est lui l'auteur, le vrai auteur du crime de son père, Frédéric II de Ferrette, qui a été assassiné en la fin de 1232. Effectivement, ça c'est vrai. Frédéric II de Ferrette a été assassiné à ce moment-là, sauf que l'assassin est le frère d'Ulrich, c'est-à-dire Louis le Féroce. Et Quiqueré nous dit, la charte nous dit, c'est pas mon frère que j'ai accusé à tort, c'est moi. Puis non content d'avoir tué mon papa, en plus j'ai tué aussi le comte Rodolphe de Soyères avec le même couteau, et c'est précisé dans l'acte, et j'ai enterré le comte Rodolphe de Soyères dans le château de Soyères avec le couteau. Et en fait, Quiqueré rédige ce faux quand il est très très jeune, il doit avoir autour de 24 ans, peut-être même pas, parce qu'il est le possesseur du château de Soyères, et son objectif c'est de mettre en valeur ce château qu'il restaure, qu'il veut mettre en valeur, et dans lequel il va établir un cabinet de curiosité. Et il se trouve que en restaurant ce château, aux divines surprises, il trouve dans les ruines de la chapelle des restes humains avec le fameux couteau sanglant qui, naturellement, va occuper une place de choix dans son cabinet de curiosité.
Si on en revient aux documents, quels sont les indices qui permettent de dire que il s'agit d'un faux, en l'occurrence rédigé par Auguste Quiqueré?
Alors, ils sont nombreux et péremptoires, même si le faux n'a été connu comme faux que dans les années 1880. D'abord, des raisons historiques externes aux documents, c'est-à-dire nous savons que Louis de Ferrette a été mis au ban de l'Empire, qu'il est allé à Rome pour obtenir l'absolution du pape, etc., etc. Toutes choses qui ne se seraient pas passées comme ça s'il avait été accusé à tort par son frère, parce qu'il n'aurait jamais accepté ces humiliations. Il se serait défendu et on en aurait les traces. Et deuxièmement, des critères d'ordre interne au document, c'est-à-dire que ce document, pour un spécialiste, ne résiste pas à l'examen. L'écriture n'est pas extraordinaire, même si, j'insiste, on est environ 1825, par là autour, peut-être un tout petit peu avant, et c'est tout à fait remarquable d'arriver, pour un jeune homme d'à peine 20 ans, d'arriver à faire un document, un faux, c'est remarquable, d'y ajouter un saut truqué, enfin, ça suscite le respect. Mais il y a des choses qui ne tiennent vraiment pas la route, comme par exemple l'abréviation de Noster en NER, plus un signe abréviatif, c'est rigoureusement impossible.
Le document, vous l'avez dit, comporte également un sceau. Le sceau, lui, on part plutôt du principe qu'il serait authentique.
Alors, il faut être prudent, mais effectivement, notre restaurateur, il y a une dizaine d'années, a, sur ma demande, fait un examen sommaire de ce sceau, pas un examen approfondi parce qu'on n'avait pas les moyens. Il aboutissait plutôt à la conclusion que le sceau est authentique parce que la cire présente des signes de vieillissement qui seraient assez étonnants pour un sceau complètement falsifié, forgé par Quiqueré. Et selon notre restaurateur, c'est un sceau prélevé sur un document authentique que Quiqueré a assez habilement rajouté à sa forgerie.
C'est-à-dire qu'il s'était donné les moyens de faire un faux crédible, mais finalement, quels étaient ses buts ou ses intentions?
La mise en valeur de son château de Soyères. Et en plus, Quiqueré, non seulement est le propriétaire du château de Soyères, et puis il le met en valeur, il va même faire un petit monument à la mémoire de ce fameux comte Rodolphe de Soyères qui n'a d'ailleurs jamais existé, n'est-ce pas? Mais en plus, il va écrire des romans. C'est la grande mode des romans historiques, n'est-ce pas? Fort mauvais, il faut le reconnaître qu'il était moins doué en littérature qu'en forgerie. Des romans historiques, il va parler des contes de Ferrette, il va parler des contes de Soyères, et il évoque ce crime dans ses œuvres. Il est aussi historien, c'est un homme complet, c'est un homme remarquable ce qu'il crée, à part le fait qu'il avait, dans sa jeunesse en tout cas, un rapport à la science peut-être assez coupable. Malgré tout, ça restait un très grand savant, un homme très intelligent, et il va se servir, hélas, de ses forgeries aussi dans ses œuvres historiques. Et cela jusqu'à assez tard, il faut bien le dire, ce qui n'arrange pas son cas.
Mais malgré tout, c'est un personnage qui a eu un apport considérable pour l'histoire de la région. C'est un peu quelque part le père de l'archéologie de la région. La réalisation de ses faux, ça a quand même porté préjudice à certains de ses travaux, même si aujourd'hui, on s'est rendu compte que bien souvent, Auguste Quiqueré était dans le vrai. C'est le cas, par exemple, pour la localisation du monastère de Moutier-Grandval qu'on a retrouvé à l'endroit que Quiqueré avait identifié.
Et surtout, pour ce qui concerne l'industrie du fer, qui a été très largement étudiée par les archéologues aujourd'hui, on se rend compte que les théories qu'il avait émises à l'époque et qui n'ont pas été prises en compte parce que justement il était devenu infréquentable sur le plan scientifique et qu'on remettait tout en cause, on peut se mettre à la place des autres savants de son époque, n'est-ce pas ? Un tricheur ne peut pas prendre ses travaux au sérieux. Or, il se trouve malheureusement que dans ce dossier-là, les observations de Kikré étaient rigoureusement fidèles à la réalité, d'après ce que nous disent les archéologues d'aujourd'hui, et que si on en avait tenu compte plus tôt, on aurait gagné des dizaines d'années.